Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
La France passe à l'étape supérieure contre le coronavirus.
Paris prépare un vaste rapatriement pour le milieu de semaine. Rapatriement et confinement pour tous les Français de retour de Chine où l'épidémie a déjà fait 80 morts selon de derniers bilans. Les congés du Nouvel An prolongés jusqu'à dimanche. Des milliers d'habitants restent cloîtrés chez eux. La correspondance de Stéphane Pambrin.
Ils ne sont pas sortis de leur domicile depuis 3 jours. Cette famille expatriée à Pékin depuis 10 ans scrute régulièrement les informations officielles envoyées par l'ambassade de France. Éviter de sortir, se laver les mains régulièrement et se rendre immédiatement à l'hôpital en cas de forte fièvre. Une quarantaine forcée qui risque de continuer encore longtemps.
On nous dit que la rentrée des classes est reportée au 17 février pour le lycée français. Et qu'ils vont nettoyer complètement l'école. Ça fait peur quand même, hein. Ça veut dire qu'on va rester comme ça encore au moins 3 semaines, hein.
Plus de 10 000 expatriés français vivent à Pékin. Les congés du Nouvel An devaient se terminer normalement mercredi, mais beaucoup ne reprendront pas le chemin du bureau ou de l'école. Certains envisagent même déjà de rentrer en France.
Stéphane Pambrin en Chine pour RTL. Le Premier ministre chinois est arrivé cette nuit à Wuhan, d'où est partie l'épidémie. En France, on rappelle ces chiffres, 3 cas avérés, 1 à Bordeaux, 2 à Paris et 6 cas suspects. On attend d'ailleurs les résultats tout à l'heure ce matin. On vous retrouve Odile Pouget. Vous nous l'avez dit, hein, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin contre le coronavirus. Comment soigne-t-on ces malades ?
Eh bien, on s'attaque à leurs symptômes, on fait baisser la fièvre avec de l'aspirine, on soulage également leurs maux de tête pour tout ce qui est gêne respiratoire qui se traduit très souvent par un essoufflement. On peut placer le malade sous oxygène, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. L'important, c'est que le patient reste isolé, sous surveillance médicale, tant que le virus est présent dans son organisme.
Les malades qui sont morts, quel est leur profil ?
Des sujets âgés qui avaient en tout cas plus de 65 ans, ou alors des personnes fragiles avec des antécédents médicaux, du diabète par exemple, des problèmes cardiaques, des patients également aux défenses immunitaires affaiblies. En fait, c'est exactement le profil des victimes de la grippe. La grippe, il faut le rappeler, beaucoup plus meurtrière, qui tue tous les ans en France, en moyenne, 5 à 8 000 personnes.
Merci Odile Pouget. La fièvre touche l'indice Nikkei à la bourse de Tokyo, qui a dévissé de plus de 2% ce matin à la clôture. On craint l'extension de l'épidémie qui a déjà touché d'autres pays comme le Japon.
RTL 8h02.
32 secondes, l'Amérique s'est arrêtée hier soir pendant 32 secondes.
8 plus 24, les deux numéros portés par la légende du basket Kobe Bryant, mort à 41 ans dans un crash d'hélicoptère. Un choc aux États-Unis. Tous les matchs ont marqué une pause. La légende de Bryant avait égalé celle de son idole Michael Jordan. Kobe Bryant, bourreau de travail, écoutez ce qu'il disait il y a quelques années dans un documentaire quand on l'interrogeait sur son rival Shaquille O'Neal. Il me demande de lui passer le ballon. Je lui réponds, je te le passe, le ballon, si tu travailles. Il m'a dit, donne-moi le ballon. Non, travail. Kobe Bryant est donc mort dans un crash d'hélicoptère près de Los Angeles par temps brumeux avec l'une de ses filles, âgée de 13 ans, et 7 autres personnes. Il aura passé la moitié de sa vie en NBA. Retour sur un parcours hors norme, Nicolas Georgerot.
Kobe Bryant, la star des années 2000 en NBA, l'homme d'un seul club, les Lakers de Los Angeles durant 20 saisons, le gamin de Philadelphie, phénomène de précocité, passé du lycée à la prestigieuse Ligue américaine directement à 18 ans, sautant la case université. Un palmarès éloquent, 5 fois champion NBA, double champion olympique, basketteur, perfectionniste, travailleur acharné. Bryant, fan de foot, connaisseur de ce sport qu'il avait découvert adolescent en Europe lorsque son père avait joué en Italie ainsi qu'en France, à Mulhouse pendant quelques mois. Il était venu au Camp des Loges en octobre 2017 rencontrer l'effectif du PSG peu de temps après sa retraite. Neymar, hier soir dans l'après-match sur Canal+, lui a dédié ses buts.
C'est une grande tristesse pour le monde du sport et pour nous tous. Pas seulement les fans de basket mais aussi parce que pour tout ce qu'il a fait pour le sport.
Ses numéros fétiches, le 8 et le 24, sont accrochés au plafond de la salle des Lakers. Un jour de 2006 contre Toronto, Bryant avait inscrit 81 points. Ses adversaires ce soir-là s'étaient battus pour lui faire dédicacer l'historique feuille de match.
Le retour sur la vie de Kobe Bryant avec Nicolas Georgerot. Au Brésil, la violente tempête qui sévit sur le sud-est du pays depuis jeudi a déjà fait au moins 44 morts d'après un dernier bilan. Il y a aussi une vingtaine de disparus et 17 000 déplacés. Les pluies sont les plus importantes jamais mesurées au Brésil. Un vent électoral pour Matteo Salvini en Italie. Le candidat du leader de l'extrême droite a perdu face à la gauche au régional partiel en Émilie-Romagne, scrutin marqué en plus par une très forte participation. Le chef de la Ligue prévoyait de demander aujourd'hui la démission du gouvernement en cas de victoire.
Dans un court instant, la cérémonie des adieux à Marseille.
Faire tout ce que j'ai fait, supporter tout ce que j'ai supporté, puis tout d'un coup plus rien, il y aura sans doute un choc.
Dernier conseil municipal pour Jean-Claude Gaudin, vous l'aurez compris, restez avec nous.
Il est 8h05.
Citroën.fr.
RTL Matin.
RTL 8h06, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
Une page se tourne ce matin à Marseille.
Avec le tout dernier conseil municipal de Jean-Claude Gaudin. C'est dans moins d'une demi-heure maintenant, après 25 ans donc passés à la tête de la mairie. Et une fin amère hein, depuis l'effondrement de plusieurs immeubles insalubres. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin, disait Woody Allen.
RTL Municipal 2020.
À 80 ans, Jean-Claude Gaudin passe donc le flambeau à une femme. Une succession très incertaine pour la droite, tant le bilan du seigneur de la Canebière est contesté, Étienne Baudu.
Oui, c'est pourquoi on constate chez tous les candidats une volonté de se démarquer absolument. À commencer par la candidate Les Républicains, Martine Vassal, même si elle doit pourtant à Jean-Claude Gaudin l'essentiel de son parcours politique.
L'équipe Gaudin est allée un peu sur toutes les listes. Hein, donc ça, je pense que c'est... On l'évacue. Je crois que les Marseillais et les Marseillaises souhaitent élire une personnalité. Et je souhaite qu'ils voteront largement pour Ménisse dans les 8 secteurs.
Mais c'est là une gageure avec une guerre fratricide qui l'oppose à l'ancien patron de la Fédération départementale Les Républicains, Bruno Gilles, qui part seul de son côté. Et puis attention, contrairement au passé, cette fois-ci, aucun candidat ne pourra l'emporter sur son seul nom. Yvon Berland, par exemple, l'ancien patron de l'université, adoubé par La République En Marche, n'est pas connu du grand public.
Effectivement, j'ai moins de notoriété que des personnes qui sont dans une carrière politique depuis 25 ans ou 30 ans. Mais d'un autre côté, j'apporte ce regard nouveau d'un citoyen qui a vécu dans cette ville pleinement.
Et puis par ailleurs, la victoire ne pourra se jouer qu'avec des alliances, vu le nombre de prétendants sérieux, 8 au total, dont 7 pourraient même atteindre les 10% des voix au premier tour. Et certains auraient bien voulu que ces alliances soient contractées justement dès maintenant, comme le Printemps Marseillais, un agglomérat de citoyens issus de collectifs et de syndicats et de représentants des partis de gauche. À sa tête, Michèle Rubirola, elle aurait souhaité un rapprochement naturel avec Europe Écologie Les Verts, qui eux tentent l'aventure seuls au premier tour.
On était tous sous les fenêtres de M. Gaudin en disant on ne veut plus de ce système, donc on doit être tous ensemble au premier tour, rassemblés pour, dans les urnes, mettre un bulletin qui permette à ce système de dégager. Je ne veux pas jouer à la roulette russe.
Et oui, car le pari est évidemment risqué de partir chacun de son côté. Enfin, le Rassemblement National, il est installé désormais comme une force importante, mais il a toujours aussi peu de réserves de voix, reconnaît le sénateur RN Stéphane Ravier.
C'est une élection tellement particulière qu'il peut se jouer au troisième tour à l'occasion de l'élection du maire. Et là, tout devient possible. Il suffirait de gagner 2 ou 3 secteurs et cela pourrait suffire pour remporter la mairie.
Car certains observateurs prédisent dans certains secteurs des triangulaires, bien sûr, mais pourquoi pas des quadrangulaires, voire même des pentagulaires, 5 listes. Au vu du puzzle électoral dans les 8 secteurs de la ville, rien n'est impossible.
Des pentagulaires, ouais, des pentagulaires.
Une bonne pentagulaire et au lit.
Focus signé Étienne Baudu. À Paris, Cédric Villani claque la porte au nez d'Emmanuel Macron. Le candidat dissident d'En Marche reçu hier soir par le chef de l'État en personne maintient sa candidature contre celle de Benjamin Griveaux. L'ancien porte-parole du gouvernement est à la peine. Dans les sondages, plusieurs ministres ont été appelés à sa rescousse. Agnès Buzyn irait bien, mais elle a beaucoup de travail.
J'ai plein d'idées. Je pense que je peux être utile à cette ville que je connais extrêmement bien.
Au 15e
et donc tout ça est en discussion avec Benjamin Griveaux. Mais aujourd'hui, quelque part, j'ai mis une pause parce que, comme vous l'avez remarqué, entre l'hôpital, les retraites, mais surtout le coronavirus, je préfère être concentrée sur mes dossiers ministériels. Nous verrons dans 15 jours comment vont les choses.
Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, hier au grand jury sur RTL.
Remarquez que ce n'est pas complètement fermé. Hein. Alors, La République En Marche est-elle en train de perdre ses premières municipales? Eh bien, c'est notre débat à 8h20 avec Audrey Rossigneux et Nicolas Domenac.
RTL, il est 8h10.
C'est un des sujets sur la table hein, pendant cette campagne, les loyers trop élevés.
Faut-il les encadrer? Ça avait été mis en place à Paris en 2015, avant d'être annulé. Le dispositif a été remis en place dans la capitale et il est en vigueur depuis 6 mois.
Alors avec quels effets cet encadrement a-t-il fait baisser les prix? Eh bien c'est la question du 8h.
Avec vous Armelle Lévy, bonjour.
Bonjour.
Les loyers sont-ils réellement plafonnés aujourd'hui à Paris?
On est encore loin du compte. Hein. L'association de consommateurs CLCV a épluché les petites annonces. L'encadrement des loyers est respecté dans 56% des cas. C'est moins de la moitié, 48% quand l'annonce est passée par un particulier. Et quand c'est une agence immobilière, le plafonnement est respecté 7 fois sur 10. Les dépassements concernent surtout les chambres de bonne et les petites surfaces. En moyenne, 150 € de plus par mois, ce qui fait tout de même plus de 1 800 € sur l'année.
Il n'y a pas de sanctions ?
Non, il y a des amendes prévues, mais avec la pénurie de logements, pour une annonce, vous avez une trentaine de visites. Faut-il encore que le locataire, trop content d'avoir un toit, se retourne contre son propriétaire ? La CLCV invite à le faire en saisissant la commission départementale de conciliation, mais il y a très peu de cas aujourd'hui.
Donc ça, c'est pour Paris. Est-ce que le dispositif va être étendu ?
Oui, l'encadrement des loyers va s'appliquer à Lille dès cette année. Le décret vient d'être publié vendredi au Journal officiel. En revanche, l'encadrement des loyers a été annulé pour les 400 communes autour de Paris. Donc vous trouvez parfois des loyers plus chers dans les villes autour de Paris.
La question de 8h avec Armel Lévy.
En tennis, il n'y a plus de Français à l'Open d'Australie. Gaël Monfils a été balayé par l'Autrichien Dominic Thiem en 3-7, 6-2, 6-4, 6-4. Et puis en football, le PSG est tout premier club à battre Lille sur son terrain depuis le début de la saison. Victoire parisienne 2-0. Bordeaux bat difficilement Nantes 1-0. Et puis Lyon a vaincu la Lanterne Rouge Toulouse sans difficulté 3-0.
C'était donc le journal de Jérôme Florin. À 8h35, vous le savez, notre rendez-vous, votre nouveau rendez-vous. Vous êtes comme ça, à quelques jours des vacances, direction les sommets enneigés ou les stations de sport d'hiver se préparent à accueillir les vacanciers. Et vous allez l'entendre, on ne fait plus du ski, uniquement du ski à la montagne. C'est le cas dans la station de Cauterets où nous vous emmènerons à 8h35.
On est vraiment à flanc de montagne. On est au milieu de la nature, dans une eau naturelle. Et on laisse un peu faire des choses.
Vous avez des banquettes à bulles et des jacuzzis qui ont un effet plutôt relaxant. Et après, sur tout le pourtour de la piscine, vous avez des hydrogés qui permettent d'avoir un effet massant.
Donc là, en face de nous, donc, on est à la partie extérieure, la montagne.
Ouais, voilà, vous avez la montagne. Vous avez la vue sur le clocher de l'église.
Reportage en intégralité à 8h35.